L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui mercredi 25 novembre. Bonjour Claire.
Bonjour tout le monde, en direct de Laval. Alors petit point météo, il y a eu du brouillard ce matin.
Oui, c'était très joli d'ailleurs.
Des petites gouttes de pluie, mais ça y est, ça s'est levé, donc tout va bien.
C'est vrai qu'il fait très beau, c'est un peu paradoxal qu'il y ait ce confinement, mais en tout cas, il fait très beau. Merci Claire pour ce petit point météo habituel. Aujourd'hui, on va parler justement, on va entendre plutôt un de tes reportages que tu as fait à la SPA de la Mayenne, la SPA qui s'adapte au deuxième confinement, où cette fois, contrairement au premier, vous avez le droit de venir au refuge pour éventuellement adopter des animaux. En cette journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, que faire contre les violences conjugales? C'est la question que nous avons posée à Laurette Audouy, la présidente de Femmes Solidaires 53. Et puis on continue de découvrir les coulisses de la résidence Habitat Jeune Pierre de Coubertin à Laval, avec le service entretien qui a forcément dû revoir sa copie avec la Covid.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Le confinement s'assouplit petit à petit.
Oui, vous avez certainement entendu hier soir, le président de la République a annoncé la réouverture des commerces dès samedi, avec respect des gestes barrières. Dès samedi, vous pourrez aussi faire du sport ou promener votre chien jusqu'à 20 km autour de chez vous pendant 3 heures. Les activités extrascolaires sont désormais autorisées, tout comme les cérémonies religieuses qui seront malgré tout restreintes à 30 personnes. Attention, il faudra toujours vous munir de votre attestation de déplacement. Prochaine étape attendue le 15 décembre avec une possible réouverture des théâtres, cinémas et musées.
Dans la région, les chiffres de l'épidémie sont en baisse.
En Mayenne, le taux d'incidence atteint 152,9 cas positifs pour 100 000 habitants. Le taux de positivité s'établit, lui, à 12,6%. Les indicateurs sont en diminution aussi pour les plus de 65 ans. À l'hôpital de Laval, 41 personnes y sont prises en charge pour la Covid, dont 10 en réanimation. Parmi elles, 8 sont sous respirateur en coma artificiel. Et pour faire face à l'épidémie, l'hôpital manque encore de moyens humains. 18 étudiants infirmiers en deuxième année ont été embauchés en tant qu'aides-soignants. Un renfort bienvenu, mais qui n'empêche pas la fatigue et le stress des équipes déjà en place. Et ce, d'autant plus que les chiffres baissent très lentement, souligne André Gounel-Pors, le directeur de l'hôpital Lavallois.
Quand on regarde ces chiffres-là, donc, ils ne baissent pas aussi vite que dans les autres départements. Et on voit bien qu'on a un certain temps de retard de 10 à 15 jours par rapport à ce qui se passe ailleurs. Je pense en particulier au Maine-et-Loire qui diminue fortement et puis la Loire-Atlantique aussi.
Après, comment l'expliquer, c'est difficile.
Il y a aussi le sujet de l'âge. Enfin, on est en proportion plus âgé donc, en Mayenne. Le fait d'être arrivé un petit peu donc après les autres, donc ça c'était positif, hein, puisqu'on a vu cette vague-là, cette vaguelette au mois de juillet. Hein, donc il y avait quand même une proportion plus importante de Mayennais porteurs de masques, connaissant les gestes barrières. Et c'est pour ça qu'on était plutôt confiants au départ lorsqu'on est rentré dans cette vague de l'automne. Hein. Bon, et malheureusement, on est rentré dedans, quoi. Donc, mais après coup. Alors peut-être qu'il y a aussi des comportements qui font qu'on est peut-être plus raisonnable. Maintenant, il faut que la chute soit comme ailleurs. Et donc, on tient fermement à ce que ça marche, quoi.
Et si le centre hospitalier de Laval était submergé, des patients pourraient être pris en charge dans les hôpitaux d'Angers et du Mans, où les lits disponibles sont plus nombreux. Aujourd'hui, 106 personnes au total sont hospitalisées dans le département à cause de la Covid. Et puis on peut noter aussi la venue du groupe Archimède à la polyclinique de Laval hier. Le duo mayennais est venu chanter pour les patients et les soignants du service de cancérologie et de soins palliatifs. Initiative de Mélanie Perron de l'effet papillon que Claire avait interrogé. Interview à retrouver sur l'autreradio.fr.
Il va aider à la gestion de l'après-Covid.
Jean Arthuis intègre une commission pour réfléchir au rétablissement des finances publiques du pays et notamment au remboursement de la dette issue de la crise sanitaire. L'ancien ministre, député et président du Conseil général de la Mayenne fera donc partie de la dizaine de personnes chargées de travailler sur cette question.
En Mayenne, les députés n'ont pas voté la loi sur la sécurité globale.
Le texte, on en a déjà parlé, assez controversé, a été adopté en première lecture hier à l'Assemblée nationale, mais sans les voix du député UDI Yannick Favennec, qui parle d'un texte mal préparé, ni celle du socialiste Guillaume Garot, qui évoque une loi déséquilibrée et dangereuse pour les libertés d'informer et de manifester. Plus de retenue du côté de la députée MoDem Géraldine Bagné, qui s'est abstenue.
Yannick Favennec dénonce aussi un scandale d'État.
Le député mayennais désigne ainsi l'épagne à répétition du réseau téléphonique et internet d'Orange. Après un courrier envoyé au PDG de l'opérateur, il a interrogé hier le gouvernement sur ce sujet à l'Assemblée nationale. La réponse de la secrétaire d'État à l'économie solidaire ne l'a pas convaincu et il la trouve complètement déconnectée de la vie des Français. Yannick Favennec envisage désormais d'interpeller le Premier ministre Jean Castex sur cette question.
Incendie d'une maison à Montflour hier soir.
Le feu s'est déclaré dans un pavillon au lieu-dit La Goronnière à Montflour vers 20h30. Une vingtaine de pompiers est intervenue jusqu'à 5h30 du matin. Petite précision, la maison était faite de terre et de paille. Elle s'est entièrement consumée. Son occupant a pu être relogé chez des proches.
Sur la route du Vendée Globe, l'Équateur, bientôt franchi par Fabrice Amedeo.
Le skipper segréen a désormais quasiment rattrapé le retard sur ses concurrents. À la 27e place, il devrait franchir l'Équateur dans la journée, après un difficile passage du poteau noir. Maxime Sorel, lui, conforte sa 14e place au large du Brésil, sur son bateau VNB Mayenne. Et puis donc le reportage de cette édition de mercredi, on en parlait en tout début d'émission, c'est donc à la SPA. Claire, tu t'es dit allez, allons à la SPA de la Mayenne pour voir justement comment ça se passait pendant le confinement.
Et oui, exactement, je suis partie la semaine dernière à la rencontre de la société protectrice des animaux, la SPA, refuge et fourrière du département. Jean-Pierre Morin et Pascal Delmas sont les présidents de la SPA Mayenne depuis janvier 2015. Ils nous expliquent comment se passent les adoptions en période de confinement et notamment après leur décision du premier confinement.
Eh bien, on a été fermé, comme beaucoup d'établissements, par rapport à ce deuxième confinement où maintenant on peut prendre des rendez-vous, donc faire que les personnes soient étalées dans le temps. Premier confinement, on était complètement fermé. Donc il n'y avait pas d'adoption possible.
On veut privilégier la présence des gens et non les adoptions qui se passent par photo. Parce qu'il y a certains refuges qui ont proposé des photos, des échanges par téléphone avant. Et ils viennent au refuge dans ce cas-là et puis l'adoption se fait ce jour-là, quoi. Nous, on privilégie toujours la présence des gens sur place pour qu'ils puissent les promener. Et puis prendre le temps de voir si ça colle entre l'adoptant et le chien. Et la même chose pour les chats.
L'adoption est avant tout un coup de cœur. Bon, il y a peut-être un premier choix qui peut être fait sur le site, donc par l'intermédiaire de photos et quelques renseignements sur notre site. Mais bien souvent, des adoptants qui avaient repéré un animal venant au refuge se sont aperçus qu'il y en avait d'autres pour lesquels ils avaient eu un coup de cœur sur place, ce qui n'avait pas été le cas par l'intermédiaire de photos. Donc c'est très très important, c'est sûr.
On est content d'être ouvert. Ceci dit, il n'y a pas beaucoup d'adoptions pour autant au début novembre, là, du 1er au 10 novembre. On est à 50% des mêmes chiffres 2019. Donc on est à 50% chiens, 50% chats. On donne des rendez-vous toutes les demi-heures. On reçoit à peu près 6 personnes par après-midi, donc des billets par 6 pour aller jusqu'au samedi. Et pour autant, en ce moment, il y a beaucoup moins d'adoptions parce que est-ce que les gens prennent le temps de bien poser leur adoption, prennent le temps de réfléchir à tout ce qu'il y a comme contrainte. N'hésitez pas à donner une deuxième vie à un animal qui a déjà subi du stress en étant ramené à la SPA. C'est toujours une nouvelle épreuve parce qu'il faut s'habituer dans des nouveaux lieux avec des nouveaux compagnons. Et donc, c'est une épreuve de plus, oui, pour l'animal.
Je compléterai simplement en disant que il ne faut pas considérer un animal comme étant éventuellement un cadeau de fin d'année. Que s'il y a adoption, c'est pour l'animal, c'est pour le plaisir et l'amour dans la famille.
Si vous voulez réserver votre créneau de visite à la SPA à Laval, contactez le 02 43 53 72 21.
C'est bien noté. Merci beaucoup Claire pour toutes ces informations. Et puis d'ici quelques minutes, on fait le point, on vous l'a dit, donc sur la lutte contre les violences conjugales en France, mais aussi ici en Mayenne. Et avant ça, on écoute Delgré avec Mojodi.
Figuring more so deep.
bien sur l'autre radio et vous écoutez toujours l'agité du local. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'occasion de faire un triste bilan, 239 signalements de violences conjugales ont été faits aux gendarmes mayennais depuis le début de l'année. Il y a un an, le gouvernement lançait un Grenelle sur les violences conjugales. De nouveaux axes d'action ont été présentés lundi. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Laurette Audouy, la présidente de Femmes Solidaires 53. Elle regrette forcément l'annulation des actions prévues en Mayenne pour cette journée.
On avait hâte d'assister à la représentation théâtrale. Normalement, c'était prévu le 26 au soir. Une pièce de théâtre qui s'appelle « Pourquoi tu restes ?». Et étant donné que c'est la question que de nombreuses victimes se voient poser par l'entourage, on se disait que c'était vraiment très intéressant. C'était un spectacle avec une seule comédienne en scène. On espère bien pouvoir la faire venir plus tard, en fait, hein, quand le contexte s'y prêtera mieux. Donc voilà, sinon au niveau des... Les violences faites aux femmes, malheureusement, ça continue, même si le chiffre des féminicides est quand même en baisse par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière, puisque là, on doit être autour de 85 ou 86, ce qui est déjà énorme et beaucoup trop, bien sûr. Mais bon, voilà. Après, nous, on n'a pas constaté au niveau local beaucoup d'appels au moment du confinement. Mais je sais qu'au niveau national, par exemple, au niveau du 39-19, il y a eu une explosion d'appels pendant et après le confinement. Donc, voilà.
Et ça, vous, en local, vous ne l'avez pas forcément ressenti ?
Non, on ne l'a pas ressenti. On a pourtant fait, lors du premier confinement, on a fait des permanences dans la galerie, enfin, dans le bureau du directeur de la galerie de Carrefour. On était plusieurs associations à se relayer. On n'a pas forcément vu beaucoup de femmes, mais après, on a plus vu, enfin au niveau de Femmes Solidaires, on a plus eu d'appels après le confinement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de femmes qui ont constaté que la cohabitation 24 heures sur 24 permettait de mettre en relief des choses qui n'étaient plus supportables, en fait. Hein. Donc il y a eu quand même pas mal de décisions à ce moment-là de prise. Donc voilà, et je voulais insister aussi, puisque vous m'en donnez l'occasion, sur les risques courus actuellement par le numéro 3919. Mais apparemment, le gouvernement s'apprêterait à mettre cette plateforme sur le marché public. Et donc on a très peur que ça devienne un article marchand, disons, comme beaucoup d'autres, comme une plateforme d'appel. Mais alors que c'est l'association Solidarité Femmes qui l'a créé et qui le gère depuis très très longtemps. Et on a peur que s'il y a un marché public, ça veut dire aussi une perte de qualité, parce que là, c'est quand même une association militante qui répond, qui prend le temps d'écouter les femmes et de les orienter en fonction de leurs problématiques particulières. Et que effectivement, si ça devient... quelque chose qui est mis en concurrence, ça risque d'être au plus rapide, au nombre de plus grands d'appels, etc. Et donc, ce serait vraiment dommage pour tout le monde et surtout en première ligne pour les femmes, en fait. D'ailleurs, on a alerté les parlementaires sur cette question. Et c'est vrai que au niveau de deux sénateurs de la Mayenne, on a eu des retours tout à fait favorables. Et donc, ils vont interpeller les ministres sur cette question.
Et c'est vrai qu'il y a eu aussi d'autres grands axes qui ont été présentés par le gouvernement hier, et notamment une nouvelle application qui s'appelle Mémo de vie, une application pour que les victimes elles puissent décrire un peu ce qu'elles vivent et puis éventuellement enregistrer des preuves de violence lorsqu'il y en a des preuves. Vous pensez que ça peut être une bonne idée de généraliser ça et que toutes les femmes victimes de violences conjugales s'en saisissent ?
A priori, ça me paraît un peu difficile qu'une femme qui est dans la tourmente de la violence pense finalement à enregistrer et à accumuler des preuves. En fait, je pense que si elle est dans cette logique-là, il vaudrait mieux qu'elle appelle directement le 17 ou le 39-19, en fait.
Mis à part ces numéros-là, donc qui sont des numéros nationaux valables partout, là en Mayenne, donc on peut faire appel à vous, on peut faire appel aussi aux pharmacies.
J'ai eu l'occasion de discuter avec des pharmaciens hier et les jours précédents. Donc les pharmaciens normalement sont dans la boucle de des lieux d'accueil et des lieux références. En fait, le problème c'est que apparemment ils sont pas au courant. J'ai eu l'occasion d'apporter des flyers, des documents, etc. à deux des pharmacies de Laval en fait, hein, et qui se demandaient effectivement quoi faire, etc. Qui est-ce qu'il faut appeler, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et je trouve ça un peu dommage parce que normalement ils sont déjà, alors c'est pas de leur faute, hein, c'est qu'on les a pas bien informés, ils sont déjà dans le circuit normal pour les femmes depuis déjà le premier confinement en fait. Ça a été lancé comme ça un petit peu, c'était une bonne intention, une bonne initiative. Maintenant, c'est vrai que sur le plan local, il faudrait vraiment les informer et leur dire aussi ce qu'on attend d'eux. Enfin, parce que moi, j'en ai rencontré deux à qui j'ai parlé un petit peu plus précisément et ils sont d'accord en fait. Hein, y a aucun problème, mais ils savent pas. Donc voilà, à creuser, on va dire.
Est-ce que c'est souvent peut-être ça aussi, être au courant et puis être formé, alors que ce soit pour les pharmaciens ou pour les policiers, pour recueillir une plainte? Est-ce qu'on est toujours un petit peu dans cette idée de formation et d'information?
Alors pour les pharmaciens, c'est un manque, je vais dire, d'information. Et par contre, je pense qu'ils sont déjà dans une logique d'aide, enfin de soutien et d'accueil, donc là il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les policiers, il y a eu quand même depuis un certain nombre d'années des formations qui ont été mises en place. Donc je pense que ça soit les policiers ou les gendarmes, puisque les gendarmes ils viennent aussi de créer un nouveau corps spécialisé dans l'accueil des femmes victimes, enfin des victimes. Et je pense que là, il y a vraiment eu des progrès de fait. Bon, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça dépend aussi des personnes sur lesquelles on tombe. Mais d'une manière générale, il y a quand même une volonté d'accueillir dans la bienveillance et d'écouter.
Et d'ailleurs, vous avez plutôt des bons retours de la permanence que vous faites tous les vendredis après-midi au commissariat de police à Laval?
C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit presque personne le vendredi, il faut être honnête. Donc voilà, on a peut-être reçu deux femmes, mais c'est tout, quoi. Donc en fait, c'est un petit peu, pour nous, c'est un petit peu, je ne vais pas dire décevant, parce que s'il n'y a pas de victime qui se présente, on va s'en réjouir. Mais en fait, pour le moment, c'est pas très efficace, je veux dire. C'est vrai que quand on a des femmes qui nous téléphonent et qu'on leur propose le choix, par exemple, si elles veulent être reçues assez vite, on leur dit, si vous voulez, on a notre permanence au commissariat, ça peut être fait vendredi plutôt que d'attendre jusqu'à lundi. Et non, elle préfère venir, par exemple, dans notre local, prendre un rendez-vous ou bien venir à notre permanence. Le fait de passer le seuil du commissariat, c'est quelque chose de très symbolique et ça reste encore un peu tabou. C'est-à-dire que elles auraient déjà l'impression d'être engagées dans une procédure de plainte et de séparation, par exemple. Alors qu'en fait, nous, on n'est pas là pour les pousser à porter plainte. On est là pour les écouter, pour voir éventuellement toutes les pistes qui peuvent s'offrir à elles. Mais symboliquement, c'est encore très difficile de passer la porte du commissariat.
Je reviens encore une fois aux grands axes, on va dire, qui ont été annoncés par le gouvernement hier. Il y avait aussi renforcer l'accueil d'urgence pour les femmes qui ont besoin justement d'un abri d'urgence après avoir, entre autres, porter plainte. Est-ce qu'on retrouve ce souci de trouver des nuitées d'hôtel à offrir à ces femmes victimes de violences conjugales? Est-ce qu'on retrouve ce souci-là en Mayenne ou pas forcément?
Oui, moi je trouve qu'on trouve ce souci-là. Alors c'est vrai qu'il y a quelques places d'urgence donc, qui sont gérées par Revivre, l'association Revivre. Souvent, les femmes passent par le biais de l'association La Citadelle aussi, qui les reçoit. Mais il n'y en a quand même pas énormément. Et en plus, quelquefois, c'est un hébergement qui n'est pas forcément adapté. Par exemple, il peut y avoir des hébergements qui sont plus ou moins collectifs. C'est-à-dire, une femme, par exemple, qui se retrouve dans une chambre avec deux ou trois autres femmes. Donc, c'est vrai que ça pourrait éventuellement être un plus de pouvoir échanger, mais c'est pas forcément la psychologie dans laquelle elles sont. Également, par rapport à... c'est quand même aussi souvent un hébergement où dans le bâtiment, il y a d'autres personnes, y compris des hommes. Et donc, il y a aussi... quelquefois, il y a l'hôtel. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner une femme à l'hôtel, une femme très âgée. Et c'est vrai que dans cet hôtel-là, en particulier, c'était pas du tout adapté à son âge parce qu'il fallait faire un code à chaque fois qu'on entrait dans la chambre. Il n'y avait pas de toilette dans la chambre ni de douche. Elle était obligée d'aller sur le palier. Seulement, à chaque fois qu'elle allait sur le palier, la porte se refermait. Donc, c'était pas très, très adapté. Donc, en fait, c'est vrai que nous, de notre côté, on essaye de trouver d'autres solutions, de voir avec peut-être d'autres types d'hôtels un peu plus traditionnels, on va dire, voir un peu, parce que ça c'est arrivé assez souvent qu'on ait des appels pendant le week-end en particulier, puisque le week-end, les institutions, on va dire, sont fermées. Et donc, c'est arrivé plusieurs fois qu'on ait des appels, en particulier de la gendarmerie, pour placer des femmes avec enfants, etc. Et pour le moment, on n'avait pas de réponse satisfaisante à apporter. Et donc, maintenant, on a essayé de prendre un petit peu des points de repère, disons, avec différents hôtels, pour essayer de voir si on peut, de notre côté, améliorer la situation.
Donc, qu'il y a déjà des hôtels qui sont prêts à accueillir des femmes dans ces situations.
Oui, on en a plusieurs qui ont accepté. Pour le moment, c'est une acceptation de principe. Mais ça s'est pas trouvé. Mais si ça doit se concrétiser, on va sûrement le matérialiser davantage, pour faire une convention ou quelque chose comme ça. Et c'est pareil pour les... Vous avez peut-être vu ça aussi, il y avait un projet pour... je sais plus combien c'était, une cinquantaine de points d'accueil et de soins pour les auteurs de violences. Et je sais qu'à un moment donné, la procureure de Laval avait annoncé que, je crois qu'en Mayenne, on en aurait un aussi, mais je sais pas pour quand c'est. Parce que c'est important aussi qu'il y ait des lieux d'accueil, mais de soins surtout. Il y a déjà un groupe de parole qui existe sur Laval, mais apparemment, il y aurait un projet pour un établissement un petit peu plus spécialisé, on va dire.
Toujours l'idée, en tout cas, de toucher le maximum de personnes. Donc là, on disait aussi les auteurs eux-mêmes de violences conjugales. Et puis aussi, de manière plus générale, ça en fait partie aussi de la majeure partie de vos actions. Vous parliez de la pièce de théâtre tout à l'heure. La sensibilisation au grand public, j'imagine, et aussi aux enfants.
Tout à fait. C'est pour ça. Alors, pour le grand public, maintenant, en ce moment, c'est un petit peu délicat vu le contexte, donc qui fait qu'on ne peut pas avoir ni pièces de théâtre, ni ici, ni débat. Par contre, on fait tous les premiers samedis du mois un stand de sensibilisation dans la galerie marchande de Carrefour. Donc là, c'est ouvert, c'est pas du tout pour recevoir forcément des femmes victimes, mais c'est un stand dans la galerie avec, entre autres, un grand panneau sur les violences, qu'est-ce que ça peut recouvrir. C'est pas forcément que des coups, ça peut être aussi des insultes, des menaces, une privation de moyens de paiement, de pièces d'identité, enfin, un contrôle permanent, etc. quoi. Donc on essaye de sensibiliser comme ça. Et pour les enfants, donc on a nos actions d'animation auprès des scolaires, des foyers habitat jeunes, des MFR, enfin tous les établissements qui nous sollicitent. Et puis prochainement, donc au lycée Don Bosco Mayenne, en collaboration avec la gendarmerie sur les violences, surtout les violences conjugales, mais bon, ça on peut évoquer aussi toutes les autres formes de violence. Et puis il y aura aussi tout un programme de films avec le jeune public. Mais là, c'est pas encore tout à fait calé. Ça va dépendre de, là aussi, de la réouverture des salles de cinéma, en fait.
Et donc, en tout cas, c'est vrai qu'on ne voit pas... Le lien, pour vous, il est quand même très important entre, justement, tous ces stéréotypes sexistes dans la société pour ensuite agir et ne pas reproduire ou, en tout cas, essayer de diminuer toutes ces violences conjugales qui sont quand même très importantes en ce moment.
Tout à fait, oui. Tout à fait, parce qu'en fait, les clichés sexistes et toute cette inégalité de base, en fait... Bah, c'est ça qui produit à plus ou moins longue échéance, et chez certains, heureusement pas chez tout le monde, mais une espèce de droit à la violence, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, le conjoint s'estime supérieur et donc exerce sa volonté ou sa possession ou voilà, et donc se permet ce genre d'attitude, alors qu'en fait dans une société qui serait beaucoup plus égalitaire et apaisé, on va dire, mais il y aurait sûrement pas cette dérive, en fait.
Merci Laurette Audouy d'avoir répondu à nos questions, et à noter que dès l'an prochain, une maison de confiance et de prévention des familles sera créée ici en Mayenne à destination des victimes de violences intrafamiliales.
Nature wants put the fool inside poetry. Rhymes are delicate, the words go into me. And seriously, the love blossom rose whenever emotion shows. Thick with the flow, can smell it deep through your nose.
a laugh, then my rhyme is like a blaster. Now stop rapping, evaporate ever after. Full bass, low treble. If you wanna play this, no, cause it's illegal. Master the laugh, then my rhyme is like a blaster. Now stop rapping, evaporate ever after. Full bass, low treble. If you wanna play this, no, cause it's illegal.
Heaven is the music. Put your mind and soul into it. It's the prayer we'll spend in. Say amen and get us through it. Heaven is the music. Put your mind and soul into it.
C'était les Lehman Brothers avec le titre MN sur l'autre radio. On continue notre semaine à la résidence Habitat Jeune Pierre de Coubertin de Laval. On rencontre tous les acteurs de la vie en résidence et surtout de la vie confinée. Hier, nous avions entendu la directrice à propos des différentes adaptations obligatoires appliquées par les différents services pendant le confinement. Aujourd'hui, nous écoutons Jocelyne et Angélique, toutes deux agents d'entretien.
Je fais le ménage le matin. Dans les circulations, dans les communs, les sanitaires, enfin plein de choses comme ça. Et l'après-midi, la cafétéria. C'est-à-dire que je sers le café, les boissons chaudes, les boissons froides pour les gens qui viennent manger au restaurant. Ben là, c'est terminé, donc ça n'a pas repris depuis le premier confinement. Donc maintenant, c'est ménage toute la journée. Voilà. Donc ça, évidemment, ça a changé. Pendant le premier confinement, eh bien, on a été confinés au départ. On pensait que j'étais personne à risque suite à des problèmes de santé. En fait, je n'étais pas personne à risque. Donc j'ai recommencé à travailler très peu de temps, 2 fois 3 heures, après, à la date du déconfinement. Et ensuite, à mi-temps. Et ensuite, on a repris à temps complet. Par rapport au deuxième confinement, où là, au deuxième confinement, on a toujours travaillé. Avant, on désinfectait aussi que les portes des toilettes, les choses comme ça, les interrupteurs au niveau des toilettes, des sanitaires, les zones qui craignent le plus. Maintenant, c'est partout. La cafétéria, il faut faire régulièrement tous les meubles, toutes les chaises, les tables, les portes. Les couloirs, c'est pareil, il faut faire régulièrement les portes des logements. Ben, j'ai récupéré du temps qui n'est plus du temps de cafétéria. J'ai travaillé pas mal en cuisine, en remplacement de personnes qui étaient en arrêt. Moi, mon rôle est de remplir les pichets d'eau, que les gens les prennent. Ils ne se servent pas de la fontaine. Et après, nettoyer les tables aussitôt qu'ils partaient. Donc il fallait courir dans le restaurant, revenir à la fontaine. Au dernier confinement, là, en ce moment, le restaurant étant fermé, cette mission-là s'arrête automatiquement. Donc on en profite pour faire du gros nettoyage, donc on passe énormément les machines. Ben, ça fait beaucoup de manutention, beaucoup de charges dans les bras, de vibrations, de choses comme ça, dans le dos aussi. On porte beaucoup.
Premier confinement, moi j'ai commencé en premier. Et même pas à mi-temps, j'ai travaillé 2 jours par semaine et en 3 heures, quoi. C'était très peu, c'était vraiment pour faire le quotidien rapide. Normalement, il y a des casiers dans chaque bâtiment, le numéro de logement. La personne doit descendre son linge sale, prendre le propre et mettre le sale à la place. Et depuis qu'il y a le Covid, chaque résident met son sac devant le logement et nous, on vient récupérer le sale et on met le propre dedans. Bah, le deuxième confinement, franchement, bah, c'est comme si on n'était pas confiné parce que on est à temps complet, on vient au boulot comme normalement. Le gros changement, c'est que bah, l'équipe de cuisine n'est pas là, vu que la restauration est fermée. C'est vraiment le minimum, donc c'est vraiment un grand changement par rapport à ça. Bah, là, en fait, on aurait bien réclamé un petit peu de repos. Même moi aussi, je suis venue en cuisine et en tant que plongeuse. Et du coup, bah, ça nous a bien usé tout le corps, quoi.
Les conditions de travail ne sont donc plus les mêmes, il y a la fatigue et des collègues pour la plupart en chômage partiel. Nous entendrons demain comment s'organise la restauration qui reste ouverte seulement pour les résidents, mais qui a beaucoup moins de moyens à disposition.
Affaire à suivre donc forcément, vous l'avez compris, avec cette série OFJT. Et Claire, on continue comme chaque jour avec ton journal des initiatives. Et pour commencer, on fait un petit zoom sur des prestataires de l'Ouest qui se sont réunis pour réaliser un Noël virtuel.
À Beaumont-sur-Sarthe, Marielle Pommier, commerçante, lance un groupe Facebook pour mettre en relation un maximum de prestataires de l'Ouest. Plus de 100 au total de Sarthe, de Lorne et de Mayenne sont déjà sur le groupe. C'est une façon de proposer des idées de cadeaux pour Noël, des articles uniques et de soutenir nos commerçants locaux. À retrouver sur Facebook donc, Marché de Noël de l'Ouest.
Tout simplement. On parle aussi d'ateliers en visio à Renazé.
Le service jeunesse reste ouvert pendant le confinement. La salle des jeunes est ouverte sur inscription de 14h à 17h. Mais on retrouve aussi des animations en visioconférence avec des ateliers de cuisine, un atelier de modélisation cet après-midi. Les jeunes pourront aussi participer à un concours de Land Art jusqu'à début décembre. Pour s'inscrire, contactez le 06 42 78 25 69 ou par mail animation.jeunesse@cias.org. paysdecran.fr.
Belle performance de sortir en tout cas l'adresse mail en entier, bravo Claire. Et puis un Lavallois qui propose un défi pas comme les autres.
Christophe Robert est membre Lavallois de M53 Mayenne Astronomie et propose un défi à réaliser chez soi, observer le ciel et ses étoiles. Objectif, trouver des planètes, la station spatiale internationale par exemple, pour ensuite envoyer vos clichés à l'association. Vous pouvez retrouver sur la page Facebook de l'association M53 Mayenne Astronomie vos clichés ainsi que des conseils pour bien voir vos planètes préférées, de quoi nous mettre des étoiles plein les yeux.
Oui, merci Claire en tout cas pour toutes ces informations. Alors c'est vrai que observer les étoiles, il ne fait pas très chaud en ce moment, hein. C'est pas comme l'été, les nuits des étoiles en août, mais en tout cas c'est un joli défi que vous propose là Mayenne Astronomie. Vous pouvez aussi nous retrouver l'autre radio, donc nous sur les réseaux sociaux, sur le compte l'autre radio, et oui on a fait simple, hein. Et puis vous pouvez aussi toujours laisser vos initiatives sur notre répondeur, ça se passe donc par téléphone au 09 70 40 59 40. C'est la fin de notre émission L'Agité du local de ce mercredi 25 novembre, merci Claire.
Merci Marie, et à demain tout le monde.
Et à demain, bon après-midi à toi. À 18h ce soir surtout, ne manquez pas une émission spéciale en direct avant les états généraux du droit à la fête et de la vie nocturne la semaine prochaine. Là, cette émission, ce sera l'occasion de discuter des enjeux de la vie nocturne à Laval, de sa réalité et des possibilités de son développement dans l'avenir, avec entre autres le maire de Laval, Florian Berco, et Yann Mieuxan, le directeur du 6x4. Et puis ce sera suivi à 19h comme tous les mercredis de Novorama. Prochaine émission donc demain, notez bien l'horaire 12h15, ça ne change pas en tout cas. Bon après-midi à tous et à demain.
Reportage,
invité, interview.
Voilà, c'est l'agité du local.